Chapitre 11. L'âme et le corps. Pendant son séjour de 10 minutes dans la chambre à coucher, Salvatore avait complètement changé de vêtements. Il y était entré vêtu, on se le rappelle, du costume de velours, et en sortait avec une redingote blanche à longs poils, un gilet croisé boutonnant jusqu'au cou, un pantalon de couleur sombre. Ainsi habillé, il était impossible de dire à quelle classe précise de la société il appartenait. C'était la manière dont il porterait ses habits, c'était le langage qu'il parlerait, qui lui assignerait un rang dans la société. Le chapeau sur l'oreille, Salvatore était un ouvrier endimanché. Le chapeau droit sur la tête, Salvatore était un homme du monde en négligé. Jean-Robert remarquait tout. Il remarqua cette nuance presque insaisissable. « Où voulez-vous aller ?» demanda Salvatore, se retrouvant dans la rue avec le poète après avoir tiré la porte de son allée. « Où vous voudrez ? Ne vous êtes-vous pas chargé de moi pour cette nuit ?»« Faisons ce que faisaient les anciens, » dit Salvatore, « jetons une plume au vent et suivons-la. » Ils allèrent jusqu'au milieu de la place Saint-André-des-Arts. Salvatore déchira un fragment de papier d'un petit portefeuille et l'abandonna au vent qui l'emporta dans la direction de la rue Poupée. Les deux amis suivirent le papier qui voltigeait devant eux comme un de ces beaux papillons de nuit aux ailes blanches. Ils arrivèrent à la rue de la Harpe. Un second papier jeté leur traça la route vers la rue Saint-Jacques. Ils allèrent devant eux sans savoir où ils allaient. Où va la causerie, où va le rêve, au hasard, à l'aventure? Ils allaient sans but, sans direction arrêtée, où vont le vent et le nuage par une belle nuit. Ils allaient pour échanger les trésors de leur esprit, pour respirer les fraîches fleurs de leur âme. Deux ou trois fois, Jean-Robert avait tenté de surprendre le secret du jeune homme mystérieux, mais à chaque fois, Salvatore avait échappé à ses questions, comme le renard, par quelque feinte habile, échappe au lévrier qui le poursuit. Enfin, abordé par trop en face, « Ce que nous cherchons, lui avait-il dit, c'est un roman à faire, n'est-ce pas? Ce que vous voulez que je vous raconte, c'est un roman terminé. Céder à votre désir, ce serait aller en arrière. Allons en avant. » Jean-Robert vit que son compagnon désirait rester inconnu et n'insista point davantage. D'ailleurs, le cours des idées des deux jeunes gens fut troublé par un incident. Plusieurs hommes et quelques femmes étaient rassemblés autour d'un homme étendu sur le pavé. « Il est ivre, » disaient les uns. « Il va mourir, » disaient les autres. L'homme râlait. Salvatore fendit la foule, se mit à genoux, souleva la tête de l'homme et, se tournant vers Jean-Robert, « C'est Barthélemy Lelon qui va mourir, frappé d'une congestion cérébrale si je ne le saigne pas à l'instant même. Venez, il doit y avoir dans les environs un pharmacien, frappé à la porte. Les pharmaciens sont forcés de se lever à toute heure de la nuit. » Jean-Robert regarda autour de lui. Les deux jeunes gens étaient arrivés, sans y penser, vers le milieu du faubourg Saint-Jacques, à la hauteur à peu près de l'hôpital Cochin. En face de l'hôpital, Jean-Robert lut au-dessus d'une espèce de boutique « Pharmacie de Louis Renault ». Peu lui importait le nom du pharmacien, pourvu que le pharmacien ouvrit. Il frappa, en homme qui veut faire comprendre la nécessité de la promptitude. Au bout de 5 minutes, la porte cria sur ses gonds et M. Louis Renault parut sur le seuil de son magasin, vêtu d'un pantalon de futaine, coiffé d'un bonnet de coton et demandant ce que l'on voulait. « Préparez des bandes et une cuvette, » dit Salvatore, « c'est un homme menacé d'une congestion cérébrale qui a besoin d'être saigné. » On apportait le pauvre charpentier qui était complètement sans connaissance. « Y a-t-il un médecin pour saigner le malade ?» demanda Monsieur Louis Renault. « Je ne sais pas saigner, moi, je suis plutôt herboriste que pharmacien. » « Ne vous inquiétez de rien, » dit Salvatore, « j'ai été élève en chirurgie et je me chargerai de l'opération. » « Je n'ai pas de lancette, » reprit le pharmacien. « J'ai ma trousse, » dit Salvatore. La foule encombrait le magasin. « Messieurs, » dit Salvatore, « voulez-vous être utile à cet homme ?»« Mais certainement, monsieur Salvatore, » dit un des assistants, en tendant la main au jeune homme. Salvatore prit la main qui s'avançait vers lui, et Jean-Robert crut voir le commissionnaire échanger un signe maçonnique avec le nouveau venu. Quelques voix répétèrent tout bas, « Monsieur Salvatore !» « Eh bien, dit le jeune homme, qui, plus que jamais, parut à Jean-Robert mériter son nom prédestiné, pendant que je vais saigner ce malheureux, frapper à l'hôpital et annoncer l'arrivée d'un malade. » Trois ou quatre personnes, conduites par l'homme qui avait parlé à Salvatore, se détachèrent et allèrent frapper à la porte de l'hôpital. Pendant ce temps-là, le pharmacien, aidé de ceux qui étaient restés, enlevait la cravate du pauvre Jean Taureau, le dépouillait de sa veste et lui tirait le bras hors de sa chemise. Les veines du cou étaient gonflées à se rompre. « Faut-il bander le bras ? » demanda Jean-Robert. « Avez-vous des bandes toutes prêtes ?» demanda Salvatore au pharmacien. « J'en vais chercher, » dit Louis Renaud. « Serrez vigoureusement le bras au-dessus de la veine, monsieur Robert. J'espère que cela suffira, » dit Salvatore. Robert obéit. Un des assistants prit le bout du bras, un autre prit la cuvette, un troisième la lampe. « Prenez garde à l'artère, » dit Jean-Robert, un peu inquiet. « Oh, ne craignez rien, » répondit Salvatore, « j'ai plus d'une fois saigné la nuit sans autre lumière que le clair de lune ou la lumière du réverbère. De pareils accidents sont communs chez ces pauvres diables et arrivent toujours en sortant du cabaret. » Il n'avait pas achevé qu'avant même qu'on eût vu sa main armée de la lancette s'approcher du bras de Barthélemy, le sang jaillissait, noir et spumeux. « Diable, » fit-il en secouant la tête, « il était temps. » L'opération avait été faite avec la légèreté et la promptitude de main d'un praticien consommé. Barthélemy respira. « Quand il aura perdu assez de sang, dit le pharmacien, qui arrivait avec une bande, vous le direz. « Oh, répondit Salvatore, nous pouvons lui en ôter sans inconvénient, il n'en manque pas, laissez couler. » Lorsque le malade eut perdu la valeur de deux palettes de sang, il ouvrit les yeux. Le premier regard fut terne, vitreux, inintelligent, mais peu à peu l'œil s'éclaira, le rayon divin y reparut, la vue de Barthélemy s'arrêta sur le chirurgien amateur. « Ah bon, monsieur Salvatore, dit-il, je suis content, en vérité Dieu, de vous voir. »« Tant mieux, mon cher Barthélemy, dit le jeune homme, et moi aussi je suis content de vous voir. Peu s'en est fallu que je n'eusse plus ce plaisir-là. » « Ah, dit Barthélemy, en reprenant peu à peu connaissance, c'est donc vous qui m'avez saigné ?»« Mais oui, dit Salvatore, en essuyant avec soin sa lancette et en la remettant dans la trousse. « Alors vous ne vouliez pas ma mort ?»« Moi, et à quel propos voudrais-je votre mort ?»« Ah, c'est que comme vous m'avez jeté du haut en bas des escaliers, j'ai cru qu'on ne faisait cela que quand on voulait tuer un homme. »« Alors donc, vous êtes fou. » Non, je conçois qu'on tue les gens qui vous mettent en colère, et je vous avais mis en colère en refusant d'ouvrir la fenêtre. Mais après avoir voulu la fermer, dame, vous comprenez, même par votre ordre, je ne pouvais pas aller ouvrir sans être déshonoré à mes propres yeux, et avec ça que ce muscadin vous avait un air triomphant. Ce muscadin vient de m'aider à vous sauver la vie, Barthélemy. « Vous voyez donc bien que, pas plus que moi, il ne vous voulait du mal. » Barthélemy se retourna et vit Jean-Robert qui le regardait en souriant. « Ah, c'est ma foi vraie, » dit-il. Jean-Robert lui tendit la main. « Allons, sans rancune, mon ami, » dit-il. « Oh, » dit Barthélemy, « je ne suis pas boudeur, et dès que vous m'offrez la main... »« J'aurais volontiers commencé par là, » dit le poète, « vous me rendrez la justice d'avouer que c'est vous qui ne l'avez pas voulu. » « Ah, ça c'est vrai, » dit Barthélemy en fronçant le sourcil. « Il faut qu'un homme soit bien bête de se faire comme ça de la peine, parce qu'une femme... Mais, comprenez-vous, monsieur Salvatore, elle est encore retournée avec ce petit gringalet de chez Bobino. Je ne peux pourtant pas le casser, le petit gueux, et il compte là-dessus. Oh, elle sait bien ce qu'elle fait, la malheureuse, en ne prenant pas un homme. Voyons, voyons, calmons-nous, Barthélemy. » « Ah, ça vous est bien aisé, à vous qui vivez avec un ange du bon Dieu, monsieur Salvatore. Mais vous méritez ça, vu que vous ne vivez que pour faire le bien, et qu'il faudrait être dénué, quoi, pour vous faire du mal. N'importe, si vieux que je sois, je suis bon père et je ne mérite pas qu'on m'enlève ma fille. Voilà trois jours que je suis comme un fou à chercher l'enfant. Elle l'aura caché quelque part, chez sa vieille gueuse de mère, mais celle-là... Pas moyen de l'aller chercher chez elle. Elle crie à l'assassin dès qu'elle m'aperçoit, si bien que je lui dois déjà deux nuits à la salle Saint-Martin. Oh, j'en passerai bien quatre, et puis six, et puis huit des nuits à la salle Saint-Martin pour revoir ma fille, ma petite fifine, un pauvre chérubin à moi. Va, elle aura deux ans à la Saint-Jean d'été. » Et le colosse se mit à pleurer comme une femme. « Eh bien, que vous disais-je » demanda Salvatore à Jean Robert, qui regardait avec curiosité cet étrange spectacle. « C'est vrai, » dit le poète. « Allons, » dit Salvatore, « on te la rendra, ta fille. »« Vous ferez cela, monsieur Salvatore, puisque je te le promets. »« Oui, vous avez raison, c'est moi qui ai tort. Du moment que vous promettez, c'est clair que vous tiendrez. »« Ah, faites cela, monsieur Salvatore, faites cela, et s'il le faut, eh bien, voyez-vous, je ne vous donnerai plus la peine de me jeter de haut en bas des escaliers. »« Vous me direz, Jean Taureau, jette-toi, et je m'y jetterai de moi-même. » « Monsieur Salvatore, » dit en rentrant l'homme qui s'était chargé d'aller frapper l'hôpital, « c'est ouvert là, en face. »« Pas pour moi, j'espère, » dit monsieur Barthélemy. « Et pour qui donc ?» demanda Salvatore. « Oh, je n'y vas pas. »« Comment tu n'y vas pas ?»« Oh, je n'aime pas l'hôpital. L'hôpital, c'est bon pour les gueux, et l'on est encore assez riche, Dieu merci, pour se faire soigner chez soi. » « Oui, seulement chez soi, on est mal soigné. Chez soi, on mange avant le temps, on boit avant l'heure. » Et quand on s'est soigné deux ou trois fois chez soi comme tu te soignes, on entre un beau matin à l'hôpital pour n'en plus sortir qu'une nuit. Allons, Barthélemy, allons. Je n'en veux pas de l'hôpital, je vous dis. Eh bien, soit retourne chez toi et cherche ta fille toi-même, tu commences à m'ennuyer à la fin. Monsieur Salvatore, j'irai où vous voudrez. Monsieur Salvatore, où est l'hôpital? Mais je le vénère, l'hôpital, me voilà. À la bonne heure. Mais vous lui reprendrez ma petite fifine, n'est-ce pas? Je te promets qu'avant 3 jours, tu auras de ces nouvelles. Qu'est-ce que je ferai donc pendant ces 3 jours? Tu te tiendras tranquille. Plutôt, si c'est possible, n'est-ce pas, monsieur Salvatore? On fera ce que l'on pourra. Hein? Va-t'en. Oui, oui, je m'en vas, monsieur Salvatore. Tiens, c'est drôle. Où sont donc mes jambes? Je ne peux plus marcher. Salvatore fit un signe. Deux hommes s'approchèrent de Barthélemy, qui s'appuya sur eux et qui sortit en disant « Vous m'avez promis, dans 3 jours, au plus tard, de me donner des nouvelles de ma fille, monsieur Salvatore, ne l'oubliez pas !» Et de l'autre côté de la rue, à la porte de l'hôpital, qui allait se refermer sur lui, le charpentier criait encore « N'oubliez pas ma pauvre petite fifine, monsieur Salvatore !» « Vous aviez raison, » dit Jean Robert, « ce n'est pas au cabaret qu'il faut voir les hommes. »